Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Immo. Jour 2 en direct du RENT et nous consacrons le sujet de notre première table ronde aux bâtiments optimisés, mise en accessibilité des ERP, retour d'expérience après 6 ans de travaux, bonnes pratiques, pièges à éviter. Objectif, aider les gestionnaires propriétaires à optimiser la gestion de leurs bâtiments sur les thématiques techniques, ascenseurs, énergie, amiante, accessibilité. Leur donner des informations pertinentes, bien sûr, pédagogiques et compréhensibles. Décrypter les sujets pour les aider à trouver les solutions les plus performantes. Les aider également à mieux gérer leur bâtiment, à le valoriser, à gagner du temps, de l'argent et de la performance. Alors à chaque émission, un expert Axéo intervient pour décrypter donc la thématique et ses enjeux. Il est accompagné d'un gestionnaire de bâtiment qui donnera également son éclairage et son expérience sur le sujet. C'est une mission qui est diffusée le mardi à 8h10 et le jeudi à 13h35, puis rendue disponible en podcast sur le site des radios Web Radio Édition. Voilà pour l'introduction, pour m'accompagner, non pas un, mais deux intervenants, avec Régis Loiseau pour commencer. Bonjour.
Bonjour Linda.
Alors, directeur métier accessibilité pour le bureau d'études Axéo.
Ça.
On rappelle brièvement, Axéo, c'est un bureau d'études donc en bâtiment, notamment spécialisé dans la mise en accessibilité handicapée des bâtiments.
Exact.
Face à vous, Bertrand Descunière.
Descunière, oui.
Ah, j'y étais presque, je me suis entraîné, mais...
On n'était pas loin.
Alors Bertrand, vous êtes responsable hygiène, sécurité et risques spéciaux pour Monoprix.
Oui.
Alors on rappelle, Monoprix, la grande distribution qu'on connaît tous bien évidemment, fondée en 1932, c'est 675 magasins essentiellement implantés en centre-ville, donc très concentrés, engagés et qui avancent également sur ces sujets d'accessibilité aux personnes handicapées. Petite introduction, quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, près de 14 millions de Français sur 67 millions, finalement, sont touchés par un handicap reconnu. L'accessibilité à 100% et à toutes les personnes en situation de handicap de tous les bâtiments recevant du public, ce qu'on appelle les ERP, a donc été rendue obligatoire depuis 2007 dans tous les bâtiments neufs et depuis 2015 dans tous les bâtiments existants. Mais de retard en retard, le gouvernement s'est rendu compte dès 2013 que l'objectif 2015 n'était pas atteint. Il a donc mis en place l'agenda accessibilité programmée, un programme de travaux obligatoire et imposé à tous les gestionnaires d'établissements recevant du public, les ERP pouvant s'étaler sur 3, 6 ou 9 ans. Aujourd'hui, nous sommes donc en plein dans les travaux. Nous arrivons à la fin de la deuxième période de travaux. C'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure sur les trois périodes maximales autorisées. C'est la fin des ADS-AP de 6 ans. La majorité des acteurs le sont, toujours parce que finalement, les travaux d'accessibilité sont plus complexes que prévu à gérer. On le verra également. Alors, comment gérer la fin de son ADS-AP de 6 ans? Comment optimiser ces travaux toujours en cours? Quels sont les pièges les plus fréquents à éviter? Les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Voilà ce que nous allons aborder tout au long de cette table ronde. Alors, messieurs, première question d'introduction. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en fait, le sujet il est assez vaste. Ça a été rappelé aux Assises nationales de l'accessibilité la semaine dernière. On a 2 millions d'établissements en France. Alors un établissement recevant du public, c'est effectivement un magasin Monoprix, mais c'est aussi la mairie, l'école, le collège, un salon comme ici, le salon RENT. Donc 2 millions, 350 000 accessibles, 700 000 qui sont rentrés dans la démarche ADAP. Il reste presque 1 million qui aujourd'hui n'ont strictement rien fait en termes d'accessibilité.
C'est énorme.
Oui, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui est un sujet qui est très complexe. Pourquoi? Parce qu'on a plein de petits travaux, des travaux qui sont très différents. Il faut traiter plein de bâtiments à la fois. On a effectivement noté qu'il y avait beaucoup de bâtiments. Il faut les faire en même temps, parce que si on les faisait successivement, effectivement, ça serait un petit peu compliqué. Néanmoins, le temps, lui, n'a pas changé. On avait accordé un délai jusqu'à 9 ans pour le traiter. Il y a beaucoup de démarches administratives. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très, très compliqué et qui, au final, va coûter très cher.
Malheureusement, nous sommes connus pour les lenteurs administratives, n'est-ce pas?
Oui, c'est sûr qu'en France, ces sujets d'accessibilité, on le voit nous au niveau national, on a pas mal de difficultés justement d'une région à l'autre pour pouvoir avoir des retours, parce qu'effectivement on va déposer des dossiers à un endroit d'une certaine manière, On va avoir un retour qui va être positif ou négatif, et puis on va déposer le même dossier dans une autre région de France. On va avoir une approche qui va être complètement différente. Donc même pour nous, qui justement est implanté sur le territoire national, c'est hyper compliqué à gérer, étant donné qu'on n'a pas d'homogénéité vraiment très présente et très marquée des réponses qui nous sont faites, ce qui est compliqué pour nous.
Très déstabilisant, on peut l'imaginer. Alors aujourd'hui, après 6 ans de travaux, quels sont les constats concrètement ?
Bah, les constats, nous, la chance qu'on a eue chez Monoprix, c'est que le sujet il a été pris relativement tôt. C'est-à-dire qu'à partir déjà de 2012, on avait quasiment 80% de nos établissements qui étaient déjà rendus accessibles. Donc ça a été quand même une masse de travail relativement importante à faire. Et comme l'expliquait Régis, en fait, la particularité, c'est qu'ensuite, on a plein de petites choses à venir traiter qui peuvent être anodines ou pas très compliquées de prime abord, mais qui du coup sont très compliquées parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, il faut les mener sur voilà, un parc qui est relativement important, c'est des petits travaux, ça n'intéresse pas forcément, et du coup, c'est parfois plus compliqué de traiter ce genre de sujet plutôt que de venir traiter voilà, un gros sujet bien fixé avec voilà, la création d'un ascenseur ou ce genre de choses.
Cool. On va parler effectivement tout à l'heure effectivement des notions de budget. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est quelque chose qui va coûter très très cher, mais on se rend compte que ce n'est pas le seul problème du budget. On se rend compte effectivement, comme l'a souligné Bertrand, on arrive avec des petites choses à traiter. Il faut sécuriser un escalier, mettre une main courante. Et finalement, on ne trouve pas le serrurier qui veut accepter de faire des travaux pour 500 ou 1000 euros. Finalement, on a des difficultés à faire travailler les entreprises parce que finalement, il y a trop plein de petites choses. Et ce qui, du coup, va leur poser un grand problème en termes de réalisation.
Même en période de crise ?
Alors, même en période de crise, parce qu'en plus, bon, la particularité de la période de crise, c'est que bon, nous, on avait quand même la majeure partie de nos magasins qui étaient ouverts. Les contraintes pour venir intervenir chez nous étaient quand même présentes. On demandait pas mal de choses. Ça n'a pas forcément facilité... 90% de notre parc, aujourd'hui, c'est quand même de l'alimentation. Donc, du coup, on est resté en fonctionnement. Du coup, ça n'a pas forcément aidé les choses, nous, faciliter en tout cas la réalisation de ces travaux. C'est ça que ça. On n'a pas gagné grand chose là-dessus.
Alors combien ça coûte tout ça et quels sont les pièges récurrents hein ?
Ça coûte cher.
On imagine, on devine.
Ça coûte relativement cher. Alors, en termes de chiffres, nous, à notre niveau, sur la première phase de travaux, donc tous ces petits travaux qu'on expliquait un peu, c'est quasiment 11 millions d'euros. Et ensuite, pour la partie vraiment grosse œuvre, c'est-à-dire création de levage, donc ça va être des ascenseurs, des EPMR, ce genre de choses, c'est pareil, c'est encore quasiment 11 millions d'euros. C'est quand même un budget pas anodin. Donc on traite à la fois des grosses enveloppes et puis des toutes petites enveloppes où, comme le disait Régis, voilà, on a 4000 euros à faire, 2000 euros, 3000 euros pour une main courante. La particularité, la complexité, elle est en partie là, quoi.
J'imagine que c'est des budgets qui n'étaient pas spécialement prévus avant que ce soit rendu obligatoire, bien sûr.
Alors oui et non, parce qu'en fait, comme je vous le disais, en 2012, 80% de nos magasins étaient déjà bien en place et bien accessibles. Du coup, ça nous a permis nous d'anticiper. On a très rapidement mis en place un plan de management de cette thématique-là avec des objectifs de budget annuels. En partant de, on va dire, en faisant un rétro-planning et en partant de l'exigence finale qui était en fait la fin de la DAP. Donc oui.
On a la chance, notamment dans le cas Monoprix, c'est qu'il y a des sujets qui sont traités par la maintenance directement parce qu'il y a des dégradations. Effectivement, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'utilisation de ces magasins alimentaires, donc beaucoup de choses. Il y a beaucoup de protections qui ont été mises un peu à la hâte pour la protection des clients. Et effectivement, il y a cette difficulté d'avoir aujourd'hui au niveau national, on estime qu'il n'y a pas loin de 100 milliards d'euros à traiter pour la mise en accessibilité de tous les établissements. C'est un peu compliqué, effectivement.
Alors justement, les beaux conseils aujourd'hui pour ceux qui sont justement dans ce cheminement, hein, qui sont encore dedans ou qui souhaitent se lancer, pour le coup, vous êtes bon professeur, j'ai envie de dire.
Aujourd'hui, on va avoir deux types d'exploitants de RP. Il y a ceux qui ont respecté les engagements d'ADAP et donc qui arrivent enfin. Et même là, il y a quand même pas mal de procédures à faire. Et à traiter. On travaille avec Bertrand des fois pour justement clôturer certains sujets où il ne reste plus grand-chose à faire mais qu'il faut traiter. Et on verra après ça un petit peu. Après, ceux qui, hélas, n'ont pas respecté leurs engagements. Pour ceux qui les ont respectés, on a 3 démarches à faire pour clôturer. Une première démarche, contacter un architecte diplômé d'État, un contrôleur technique qui va nous attester officiellement que l'établissement il est conforme, accessible aux règles en vigueur. Et comme ça, on sera tranquille. Éventuellement, sur les plus petits établissements, on peut avoir une attestation avec des photos, des factures de travaux acquittés. Deuxième chose, un bilan à remettre auprès de la préfecture. On a une plateforme qui existe sur le site ecologie.gouv.fr qui va permettre de faire finalement la conclusion de son ADAP pour dire bah, voilà ce à quoi je m'étais engagé en 2015 sur mes 3, 6 ou 9 ans. Aujourd'hui, on a la fin des ADAP de 6 ans. Voilà ce que j'avais dit que je ferais. Voilà ce que j'ai fait. Voilà combien j'ai engagé en termes de budget. C'est évidemment relativement simple à remplir, mais il faut quand même néanmoins le faire et surtout rassembler tous les éléments permettant de le remplir. Et enfin, dernière chose qui est très importante et qu'on oublie souvent, on l'a traité chez Monoprix des fois avec difficulté pour obtenir tous les documents aussi. On a une obligation depuis 2017 d'avoir un registre public d'accessibilité et qu'il faut mettre à jour du coup quand l'établissement est déclaré conforme. il faut récupérer, surtout le mettre à disposition du public et faire en sorte qu'il soit toujours et qu'il reste à disposition du public et pas rangé dans un coin du bureau au point d'accueil. C'est pas toujours évident.
J'imagine que c'est pas toujours le cas, c'est ça ?
Parfois un petit peu compliqué, mais...
Ça nécessite des renvois de documents, mais bon, c'est à la vie de tout magasin. Ils brassent énormément de sujets divers et variés. Ils font de la vente, ils font de la gestion un peu immobilière de cette nature-là. Ils font du RH, ils font plein de choses. Et c'est vrai que du coup, on vient leur remettre une couche là-dessus. C'est pas forcément des plus évidents. Et c'est pour ça que nous, on est là en tant que service support pour justement, voilà, quand il y a un problème avec une inspection, avec un organisme d'État ou autre, pour venir apporter justement les compléments d'infos, redonner les bons documents et puis expliquer pourquoi, bah voilà, il y a eu un cafouillage où on est en cours et qu'on n'a pas terminé, mais voilà pourquoi.
Alors ça, c'était dans le cas où les personnes étaient dans les temps. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas dans les temps cette fois, comment ça se passe pour eux ?
Alors là, ça devient compliqué. Il faut savoir, il faut quand même se rappeler, il y a le milieu associatif qui milite sur le sujet, et c'est bien normal. L'accessibilité a commencé en France en 1975. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'on est en 2021, ça commence à faire un petit moment. En 2015, le législateur a dit, vous pouvez avoir un petit peu de temps complémentaire, nos fameux 3, 6 ou 9 ans, sous réserve de vous engager à faire les travaux, de dégager des budgets et surtout de faire signer vos engagements au préfet. C'est ce qui a été fait. On a 700 000 établissements qui sont rentrés dans cette démarche. Ces engagements étaient obligatoires. On a une obligation de les respecter. C'est approuvé par le préfet. On doit rendre compte. Donc, c'est la première des choses. Il faut rappeler qu'il y a des engagements et qu'il faut les faire. La loi prévoit éventuellement de demander encore un petit délai complémentaire parce qu'on rencontre, chez Monoprix, rencontré X fois, de copropriété, d'amiante, des choses qu'on rencontre hélas dans beaucoup de bâtiments de France, et également pour des problèmes financiers qui pourraient arriver. Là, c'est vrai qu'on a eu une période assez singulière en termes de pandémie sur le sujet. On peut demander un délai complémentaire, on peut également demander une période complémentaire, ça marchait par période de 3 ans, pour aller jusqu'à 9 ans, si jamais on n'avait pas eu le délai d'origine. Il faut également savoir qu'on a aujourd'hui des préfectures qui sont en train d'écrire à tous les maîtres d'ouvrage publics. Monoprix a reçu des courriers du type en disant « Bonjour, vous exploitez tel établissement, la mairie, l'école, et aujourd'hui, on n'a pas reçu votre attestation qui dit que c'est fini. Mm-hmm. » Donc, comme on n'a pas reçu l'attestation, c'est que forcément, vous avez raté quelque chose. Peut-être que les travaux sont faits, mais on n'a pas l'attestation qui le dit.
Donc, ce qu'on comprend finalement, c'est que l'État, le gouvernement, est quand même, se positionne comme garde-fou. Vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, de toute façon, il est toujours présent, quel que soit le sujet. On a des sollicitations régulières. Après, effectivement, comme l'expliquait Régis, les associations locales sont parfois très virulentes et envoient des courriers, comprennent pas pourquoi, alors qu'effectivement, c'est malheureusement parfois un problème de méconnaissance de la réglementation, parce qu'on a des courriers parfois où on nous dit « Je ne comprends pas, vous n'êtes pas accessible, la loi était de 2005 ». On répond en expliquant que bah oui, c'était 2005, mais on avait le droit de faire un ADAP, on avait le droit de faire ça sur 3, 6 ou 9 ans, et on est dans notre bon droit et on fait les choses en temps et en heure. Simplement, les gens, ils ont du mal à l'entendre, ça. Donc, on a le garde-fou. Le premier garde-fou, je pense que c'est quand même le public, parce qu'en plus, ça crée un déficit d'image de ne pas être aujourd'hui cohérent par rapport aux attentes. Donc, on a ce point-là qui est quasiment le plus important. Et puis ensuite, effectivement, on a le garde-fou administratif. Quand on est ERP, on a des commissions de sécurité qui passent régulièrement, qui nous demandent aussi des choses. On ne peut pas passer au travers.
Mais de manière générale, si on prend le sujet d'un point de vue européen, la France a-t-elle à rougir ou se réjouir de sa position de manière globale ?
Aujourd'hui, je dirais ni l'un ni l'autre. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, tout vient d'une charte européenne qui est sortie dans les années 2000. Une charte européenne, pour qu'elle soit applicable dans le pays, il faut qu'elle soit retranscrite dans le droit national. Et aujourd'hui, finalement, la France est un des seuls pays à avoir mis en place cette loi, pas pour la construction neuve, ce qui existait déjà, mais également pour les établissements existants avec un effet rétroactif sur lequel il y a une obligation, on a un patrimoine qui est gigantesque. Et du coup, on a ces obligations, y compris pour les existants. En 2005, on avait dit, dans 10 ans, la France sera accessible intégralement. On continue à y travailler.
Il y a encore un peu de latitude.
Alors, recevoir des courriers, ça reste relativement bienveillant encore. Est-ce qu'il y a des sanctions derrière ?
Le courrier, il n'est pas forcément bienveillant pour commencer. Ça peut être une mise en demeure. Et là, globalement, il n'y a plus de bienveillance.
Ah oui, ça, c'est certain.
Oui, Régis, comme il le dit, effectivement, on reçoit des courriers. Et c'est rarement des courriers pour nous dire gentiment qu'on a... Le rappel à la loi, il est souvent très, très acté. On risque après des choses quand même qui sont relativement importantes. On peut avoir une fermeture de magasin, on peut avoir ce genre de choses. Donc, la bienveillance, si vous voulez... Il n'est pas forcément tout de suite. C'est plus tout de suite du répressif.
Voilà. Le premier courrier, effectivement, fait un petit peu peur, très clairement. Ouais. Par contre, après ça, voilà, dès qu'on a réception de courrier, c'est un des conseils qu'on va donner à nos auditeurs. Il ne faut surtout pas le mettre dans un coin du bureau. Il faut s'en occuper.
Et
Il faut échanger. Il faut prendre contact avec la préfecture qui a envoyé le courrier. Et justement, commencer à voir pour négocier, finalement, c'est l'inaction qui va coûter cher et sur lequel on aura ce risque de fermeture d'établissement.
Il faut expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Il faut expliquer que parfois c'est très compliqué avec certaines copros. Il faut expliquer que parfois on a aussi des sujets. C'est des investissements qui sont parfois très lourds. Créer un ascenseur dans un magasin, quand on est en copropriété comme nous, effectivement, il faut demander l'accord de tout le monde. Il faut passer en assemblée générale. Il faut faire le projet, il faut faire les études, il faut déposer un permis de construire. Enfin, on est tout de suite quasiment à 6, 8, 9 mois. Ça, il faut le définir en termes de budget. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre et qu'on ne peut pas faire en claquant des doigts. Ça nécessite d'être, si on veut que ce soit bien fait, il faut prendre en amont le problème intelligemment, prendre toutes les problématiques, l'exposer, et même parfois en interne, chez nous, au niveau de nos magasins, c'est convaincre de la nécessité de créer un ascenseur ou de refermer une partie d'un escalier pour venir mettre un EPMR. Il faut expliquer pourquoi. Et il faut expliquer aussi qu'est-ce que ça va apporter au magasin. Ça va permettre au magasin que la maman ou le papa qui vient avec sa poussette, il va pouvoir accéder plus facilement à l'étage. Ça va permettre aussi d'expliquer que la personne avec ses valises, ça va être un peu plus simple pour elle. Voilà, il faut expliquer qu'il y a quand même un intérêt aussi, c'est bête à dire, mais commerce, sur le fait d'être accessible en totalité au niveau de son magasin.
Après, comme l'a souligné Régis, effectivement, le simple fait de justement justifier qu'on est dans l'action et justifier des démarches peut être mieux compris par l'administration que d'être effectivement dans une passivité.
Le fait de ne pas avoir de réponse, ça les agace au bout d'un moment, le courrier devient de plus en plus virulent, et puis voilà, non, mais c'est certain ça.
C'est ça. C'est d'ailleurs la procédure officielle, effectivement, il y a ce premier courrier, puis le recommandé, puis la mise en demeure, et effectivement, tous ces éléments-là qui restent sans réponse font que, il y a un moment donné. Le préfet peut aller jusqu'à l'appui sur le bouton pour dire on ferme.
Alors Régis, si on est dans le même cas de Bertrand avec plusieurs bâtiments, comment s'assurer finalement de la conformité des travaux qui sont réalisés un peu partout? Si on a des bâtiments au niveau national, comment s'assurer que finalement tous les travaux sont conformes dans tous les bâtiments?
Je pense qu'il y a vraiment une obligation, on a une méconnaissance du sujet. On en parle depuis des années et pour autant, même encore aujourd'hui, vous prenez des formations d'architecture, on n'a quasiment aucun module de formation sur l'accessibilité.
Vous l'expliquez comment ça?
C'est
un sujet. On pense que c'est gagné. En fait, on pense que le sujet est fait, c'est gagné, c'est intégré sur les bâtiments neufs. Et pour autant, on voit que c'est pas du tout le cas. Et on a du mal. On le voit nous vis-à-vis de nos clients. Bertrand le voit vis-à-vis effectivement du conseil qu'on lui apporte. On a du mal à s'entourer de la bonne personne qui apportera le bon conseil au bon moment. Et c'est ça qui est vraiment difficile aujourd'hui, parce que finalement, on n'a pas forcément la bonne décision.
C'est vraiment très important de bien se faire accompagner. Enfin, moi, c'est un sujet que je ne gérais pas quand il a été initié, mais effectivement, les choix qui avaient été faits de l'entreprise de se faire accompagner initialement vraiment à la création de la démarche, pour moi, ça a été un point très important, parce que quand moi, j'ai repris le sujet, déjà, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir un interlocuteur en face, d'autant plus quand c'est un interlocuteur de qualité et qui, justement, il a l'antériorité sur les projets. C'est vrai que ça, c'est quand on a un parc, enfin, nous, on a un parc immobilier qui est quand même relativement important à gérer, en tout cas. Ça aurait été très très compliqué pour moi comme ça en arrivant là-dedans et de dire où est-ce qu'on en est à tel endroit. Les registres d'accessibilité, c'est hyper important, le fait de les avoir centralisés aussi, ça permet d'avoir une vision et puis d'avoir des tableaux de suivi et autres. Mais c'est sûr qu'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui connaît le sujet, c'est un gain de temps et un gain économique très très important.
Alors justement sur la partie économie, on va parler prix, quel est le bon prix finalement pour un AMO ou un MOE accessibilité?
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un bon prix? En tous les cas, le bon prix va être dans le service rendu, dans la qualité du service rendu. Aujourd'hui, on voit des maîtres d'œuvre qui vont réaliser les travaux, qui nous prennent des fois des 5% d'honoraires. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Une main courante qui vaut 2000 euros, si on prend 5%, ils vont toucher 40 euros d'honoraires. Point. Une fois qu'on a dit ça, c'est techniquement infaisable. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer son assistant maîtrise d'ouvrage ou son maître d'œuvre n'importe quel prix, mais en tous les cas, il faut exiger des références, des certifications qui vont permettre d'avoir effectivement un service de qualité et également le bouche à oreille, puisque effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Monoprix en 2012.
Exactement, le bouche à oreille, c'est souvent dans tous les domaines, je pense, c'est quand même quelque chose qui est très. Qui peut être très, très intéressant à appréhender. Et après, pour revenir à ce que disait Régis, effectivement, le montant, ce n'est pas forcément le montant de la prestation, c'est le montant de dire, OK, aujourd'hui, on paye tant, on paye un coût, mais derrière, on économise combien? Nous, aujourd'hui, on a lancé des démarches avec Axéo sur des demandes de dérogation sur un certain nombre de magasins. Bon, la demande de dérogation, c'est un coût, mais derrière, on a économisé, quand ça a été accepté, une somme relativement intéressante. Donc, c'est sûr qu'il y a un investissement initial, mais c'est de l'argent qu'on investit pour économiser derrière et pour pouvoir faire autre chose. Donc, c'est ça qui est très pertinent.
Alors, dernière question, j'imagine que chez Axéo, vous prenez en considération l'évolutivité des bâtiments qui quand même s'accélère aujourd'hui avec les bâtiments intelligents. On part d'un bâtiment aujourd'hui qui se présente de telle façon et dans 6 ans, il ressemble à autre chose. Comment vous fonctionnez sur des travaux qui sont long terme comme ça?
Alors aujourd'hui, sur des travaux qui sont long terme, déjà, il faut quand même savoir que le législateur nous permet de modifier ce qui a été déposé il y a 6 ans aujourd'hui, du coup en 2015, notamment d'ajouter des magasins qui ont pu être récupérés, par exemple. Alors, on a eu le cas chez Monoprix, effectivement. Sur la date initiale, on a des magasins qui ont été ajoutés. Et effectivement, on a ce sujet-là qui va rentrer en ligne de compte dans les prochaines années. C'est l'enjeu qu'on va avoir demain sur la question de la maintenance. On en parlait ce matin avec Bertrand en venant vous voir. On a cette question de maintenance, parce que déclarer que c'est accessible, c'est très bien. L'important, après, c'est que ça le reste dans le temps. Et il y a des choses qui vont forcément évoluer dans les années qui viennent sur le sujet.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on rend un bâtiment accessible à un instant T, mais on ne nous demande rien à force, enfin, de très concret dans la suite. Donc, il peut se passer des millions de choses derrière.
Bien sûr.
Et du coup, on passe d'une situation tout à fait correcte à n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le législateur, pour l'instant, il n'y a encore rien de prévu là-dessus.
Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives.
Merci à vous
de nous avoir suivis en direct du Règne pour ce jour 2. Restez avec nous tout au long de cette journée. On continue avec de nouvelles interviews. À bientôt.
Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.